Jules. Je n'ai pas suivi Lena. Il faut dire que je n'avais pas envie de la rattraper. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais, alors je suis restée plantée sur les marches du perron, me frictionner les bras, mes yeux s'habituant peu à peu au crépuscule. Je savais ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas d'un nouvel affrontement avec elle, j'en avais assez entendu. Ma faute. Comment tout cela pouvait-il être ma faute? Tu ne m'as jamais dit que tu étais malheureuse. Si tu m'en avais parlé, je t'aurais écoutée. Dans ma tête, tu as ri. D'accord, mais si tu m'avais dit que tu n'allais plus nager, Nell, là, j'aurais su qu'il y avait un problème. La nage était indispensable à ton équilibre. C'est ce que tu m'avais expliqué un jour. Sans elle, tu ne tiendrais plus debout. Rien ne pouvait te tenir hors de l'eau. Tout comme rien ne pouvait m'y faire entrer. Et pourtant, quelque chose y était parvenu. Soudain, je me suis sentie affamée. J'ai éprouvé un besoin violent d'être rassasiée. Je suis rentrée dans la cuisine et je me suis servi une assiette de pâtes, puis une autre, et une troisième. J'ai mangé, mangé, et enfin, quand je me suis dégoûtée moi-même, je suis montée à l'étage. À genoux dans la salle de bain, j'ai laissé la lumière éteinte. Obéissant à une habitude perdue depuis bien longtemps, mais si vieille qu'elle en devenait presque réconfortante, je me suis penchée dans le noir, les vaisseaux sanguins de mon visage près de l'implosion, les yeux ruisselants de larmes, et je me suis purgée. Quand j'ai senti qu'il ne restait plus rien, je me suis redressée, j'ai tiré la chasse d'eau et je me suis aspergée le visage en m'efforçant d'éviter mon reflet dans le miroir. Mais c'est alors la baignoire derrière moi que j'ai aperçue. Cela fait plus de 20 ans que je ne me suis pas retrouvée assise immergée dans l'eau. Pendant des semaines, après la nuit où j'ai failli me noyer, j'ai eu du mal à me laver tout court. C'est quand j'ai commencé à sentir mauvais que ma mère m'a collée sous la douche et m'a forcée à y rester. J'ai fermé les yeux et j'ai remis de l'eau sur mon visage. J'ai entendu une voiture ralentir sur la route, et comme en réponse, les battements de mon cœur se sont accélérés, puis ont ralenti quand elle s'est éloignée. « Il n'y a personne », ai-je dit à voix haute. « Il n'y a aucune raison d'avoir peur. » Lena n'était pas encore rentrée et je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où je pouvais aller la chercher, dans ce village à la fois familier et inconnu. Je suis allée me coucher, mais je n'ai pas réussi à m'endormir. Dès que je fermais les yeux, je revoyais ton visage, pâle et bleu, tes lèvres couleur lavande. Dans mon imagination, elle remontait pour découvrir tes gencives et, malgré ta bouche pleine de sang, tu souriais. « Arrête, Nell !» Je recommençais à parler à voix haute. Comme une folle. Ça suffit! J'ai attendu ta réponse, mais je n'ai eu droit qu'au silence perturbé par le clapotis de l'eau et les bruits de la maison remuant, grinçant et craquant, bousculés par le passage de la rivière. Dans le noir, j'ai tâtonné à la recherche de mon téléphone sur la table de nuit et j'ai appelé ma messagerie.
Vous n'avez pas de nouveaux messages,
m'a annoncé la voix électronique.
Vous avez 7 messages sauvegardés.
Le plus récent datait de mardi dernier, moins d'une semaine avant ta mort, à 1h30 du matin.
Julia, c'est moi. J'ai besoin que tu me rappelles. S'il te plaît, Julia, c'est important. Il faut que tu m'appelles dès que tu auras ce message, d'accord? C'est important. Voilà, au revoir.
J'ai tapé 1 pour réécouter, encore et encore. J'ai écouté ta voix. Pas seulement son timbre rauque ou ton léger accent américanisant qui m'agaçait toujours un peu. Je t'ai écouté, toi. Qu'est-ce que tu essayais de me dire? Tu m'as laissé ce message au milieu de la nuit. Je l'ai trouvé tôt le lendemain matin, quand je me suis retournée dans mon lit pour apercevoir le flash blanc des notifications clignotées sur mon téléphone. J'ai écouté tes 3 premiers mots.
Julia, c'est moi.
Et j'ai raccroché. J'étais fatiguée, pas très en forme, et je n'avais pas envie d'entendre ta voix. J'ai écouté la suite plus tard. Je n'ai pas trouvé ça étrange, ni particulièrement intrigant. C'était dans tes habitudes de laisser des messages énigmatiques pour piquer ma curiosité. Ça faisait des années que tu faisais ça, et quand tu rappelais, 1 ou 2 mois après, je comprenais qu'il n'y avait eu ni drame, ni mystère, ni événement exceptionnel. Tu essayais simplement d'attirer mon attention. Ça n'était qu'un jeu. N'est-ce pas? J'ai réécouté ton message, encore et encore. Et maintenant que j'étais bien attentive, je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais fait pour ne pas remarquer plus tôt ton souffle court. La douceur inhabituelle de ta voix, ses hésitations, le ton incertain. Tu avais peur. De quoi avais-tu peur? De qui? Des gens de ce village? Ceux qui s'arrêtent pour me dévisager sans venir m'adresser leurs condoléances? Qui n'apportent ni nourriture, ni fleurs? On ne dirait pas que tu manques à grand monde, Nell. Ou peut-être que tu avais peur de ta fille. Si froide, si irritable, si étrange. Ta fille qui ne te pleure pas et qui martèle que tu t'es suicidée sans preuve ni raison. J'ai quitté mon lit pour me faufiler dans ta chambre, juste à côté. Je me suis sentie redevenir petite fille. À l'époque où nos parents dormaient dans cette chambre, je m'y faufilais la nuit quand j'avais peur, quand j'avais fait un cauchemar après avoir écouté une de tes histoires. Je poussais la porte et je me glissais à l'intérieur. Il y faisait trop chaud, et la vue de ton lit défait m'a soudain fait monter les larmes aux yeux. Je me suis assise au bord. J'ai pris ton oreiller dans sa taie gris ardoise avec un liseré rouge sang, et je l'ai serré contre moi. Un souvenir très net d'un anniversaire de maman m'est revenu. On était venus dans cette pièce, toutes les deux. On lui avait préparé le petit déjeuner au lit. Elle était malade et on faisait des efforts pour s'entendre. Ces trêves ne duraient jamais, tu en avais vite assez de m'avoir avec toi. Je ne t'intéressais jamais bien longtemps. Je finissais par retourner aux côtés de maman sous ton regard à la fois hautain et blessé. Je ne te comprenais pas, mais si tu m'étais étrangère à l'époque, aujourd'hui tu es un mystère insondable. Je suis assise dans ta maison, parmi tes affaires, et c'est la bâtisse qui m'est familière, pas toi. Je ne te connais plus depuis notre adolescence, quand tu avais 17 ans et moi 13. Depuis cette nuit où, telle une hache qu'on abat sur un morceau de bois, les événements ont fissuré notre famille, y laissant une large brèche. Mais ce n'est que 6 ans plus tard que tu t'es à nouveau saisie de cette hache pour nous séparer définitivement. C'était à la veillée funèbre. On venait d'enterrer notre mère et on fumait dans le jardin, toi et moi, dans le froid glacial de cette soirée de novembre. J'étais muette de chagrin, mais toi, qui te bourrais de médicaments depuis le petit déjeuner, tu étais d'humeur loquace. Tu m'as parlé d'un voyage que tu avais prévu de faire, Preikestolen, en Norvège, une falaise qui culmine à 600 mètres au-dessus d'un fjord. J'essayais de ne pas t'écouter parce que je savais déjà de quoi il retournait et que je n'avais pas envie d'en entendre parler. Quelqu'un, un ami de notre père, nous a appelés depuis la maison, la voix embrumée par l'alcool.
« Ça va dehors, les filles. Vous noyez votre chagrin ?»«
Noyer, noyer, noyer. » Tu as répété. Tu étais ivre, toi aussi. Tu m'as observé, les yeux mi-clos, une lueur étrange dans le regard.
Julia.
Tu as repris en étirant mon nom. Tu y repenses parfois. Tu as posé une main sur mon bras et je me suis dégagée. Si je repense à quoi? Je me suis levée. Je ne voulais plus rester avec toi. Je voulais être seule. À cette nuit-là, est-ce que tu en as déjà parlé à quelqu'un? J'ai fait un pas pour m'éloigner, mais tu as agrippé ma main. Fort. Allez, Julia, dis-moi la vérité. Au fond, est-ce que tu as aimé ça? Après ce soir-là, je ne t'ai plus jamais adressé la parole. Et là, d'après ta fille, c'est moi qui aurais été affreuse avec toi? On ne raconte pas les histoires de la même manière, toi et moi, n'est-ce pas? Je ne t'ai plus adressé la parole, mais ça ne t'a pas empêché de m'appeler. Tu me laissais des petits messages bizarres pour me parler de ton travail. De ta fille, d'un prix remporté ou d'une distinction reçue. Tu ne disais jamais où tu étais, ni avec qui. Mais parfois j'entendais des bruits dans le fond. De la musique, des voitures, parfois des voix. Parfois j'effaçais tes messages, parfois je les sauvegardais. Parfois je les écoutais et les réécoutais. Tellement de fois que même des années plus tard, je m'en souviens encore mot pour mot. Parfois tu étais énigmatique, d'autres fois en colère. Tu ressassais de vieilles insultes, tu déterrais des disputes enfouies, tu pestais contre un affront de longue date. Le coup de l'obsession du suicide. Un jour, dans le feu de l'action, agacé par tes fascinations morbides, je t'avais accusé d'être obsédé par le suicide. Et tu n'avais plus jamais cessé de me le reprocher. Parfois, tu te faisais larmoyante. Tu parlais de notre mère, de notre enfance, de ce bonheur perdu. D'autres fois, tu étais enjouée, euphorique, surexcitée.
« Viens au vieux moulin !»
tu m'implorais.
« Allez, s'il te plaît, tu vas adorer !»« Allez, Julia, il est temps qu'on mette tout ça derrière nous. Ne sois pas bornée. Il est temps !»
Alors j'étais furieuse. « Il est temps !» Et pourquoi aurait-ce été à toi de décréter la fin des conflits ? Tout ce que je voulais, c'était qu'on me laisse tranquille. C'était oublier Beckford, t'oublier, toi. Je m'étais façonné une vie à moi, plus petite que la tienne, bien sûr, comment aurait-il pu en être autrement ? Mais c'était la mienne. J'avais des amis, des relations amoureuses même. Un minuscule appartement dans une jolie banlieue du nord de Londres. Un boulot dans le social qui me donnait le sentiment d'accomplir des choses, qui m'épuisait mais m'épanouissait en dépit d'un maigre salaire et d'horaires contraignants. Je voulais qu'on me laisse tranquille, mais tu n'étais pas d'accord. Deux fois par mois ou deux fois par an, tu m'appelais et tu me perturbais, tu me déstabilisais, tu me bouleversais. Comme toujours, en fin de compte, car ce n'était que la version adulte de tes jeux d'autrefois. Et tout ce temps-là, moi, j'attendais. J'attendais l'appel auquel je pourrais enfin répondre. Celui où tu m'expliquerais pourquoi tu avais agi ainsi quand nous étions plus jeunes. Comment tu avais pu me faire tant de mal. Comment tu avais pu ne rien faire pendant qu'on me faisait du mal. Une partie de moi aurait voulu avoir une conversation avec toi, mais pas tant que tu ne m'avais pas dit que tu étais désolée. Pas tant que tu ne m'avais pas supplié de te pardonner. Ces excuses ne sont jamais arrivées, et je les attends toujours. J'ai ouvert le premier tiroir de la table de chevet. Dedans, des cartes postales vierges, des images d'endroits que tu as visités peut-être, des préservatifs, du lubrifiant, un briquet ancien en argent avec les initiales LS, gravé sur un côté. LS. Un amant ? J'ai examiné la pièce à nouveau et je me suis soudain rendu compte qu'il n'y avait aucune photo d'homme dans toute la maison. Ni à l'étage, ni en bas. Même les tableaux ne représentaient presque que des femmes. Et dans tes messages, tu parlais de ton travail, de ta maison, de Léna, mais tu ne mentionnais jamais d'homme. Les hommes n'ont jamais paru avoir une grande importance pour toi. Sauf un, n'est-ce pas ? Autrefois, il y a eu un garçon important pour toi. Quand, adolescente, tu faisais le mur la nuit, quand tu passais par la fenêtre de la buanderie pour te laisser tomber sur la berge de la rivière et que tu contournais la maison, de la boue jusqu'aux chevilles. Tu remontais la berge pour rejoindre la route où il t'attendait. Robbie. Repenser à Robbie, à toi et Robbie, c'est comme traverser le pont dans une voiture lancée à toute vitesse, le cœur dans la gorge. Robbie était grand, blond et large d'épaules. Et il arborait en permanence un petit rictus au teint. Il lui suffisait de regarder une fille pour qu'elle perde tous ses moyens. Robbie Cannon, le mâle alpha, le petit chef, brutal et méchant, qui sentait le déo axe et le sexe. Tu l'aimais, disais-tu. Mais je ne voyais pas vraiment où était l'amour dans tout ça. Vous passiez des grandes effusions aux échanges d'insultes. Il n'y avait jamais d'entre deux. Jamais un semblant de paix. Je ne me souviens pas qu'il y eut beaucoup de rires. Mais j'ai ce souvenir très vif de vous deux allongés sur la berge du bassin, l'un contre l'autre, les pieds dans l'eau, et de lui qui te fait rouler sous lui et qui enfonce tes épaules dans le sable. Quelque chose dans cette image m'a secouée et m'a fait éprouver un sentiment depuis longtemps oublié. La honte sale et secrète du voyeur, teintée d'autre chose que je n'ai pas réussi à analyser. De toute façon, je n'en avais pas envie. J'ai essayé d'ignorer cette image, mais je me suis rappelée. Ce n'était pas la seule fois où je vous avais espionné. Soudain mal à l'aise, je me suis levée de ton lit pour arpenter la pièce en regardant les photos. Il y en avait partout. Des cadres sur ta commode avec des images de toi bronzée, souriante, à Tokyo ou Buenos Aires, en vacances au ski ou à la plage, avec ta fille dans tes bras. Sur les murs, des reproductions encadrées des photos que tu as prises pour des couvertures de magazines, un article en une du New York Times, les récompenses que tu as reçues. Les voilà, les preuves de ton succès. Les preuves que tu me dépassais en tout. Le travail, la beauté, la maternité, la vie. Et voilà que tu me dépasses à nouveau. Même pour ça, tu gagnes. Une photo surtout m'a interpellée. C'était une image de toi, Elena. Déjà plus un bébé, une petite fille, 5 ou 6 ans, peut-être plus. J'ai toujours été incapable de deviner l'âge des enfants. Elle souriait de ses petites dents blanches et il y avait quelque chose d'étrange. Quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Quelque chose dans ses yeux. L'expression de son visage lui donnait un air de prédateur. J'ai senti mon pouce s'emballer, le retour d'une vieille peur. Je me suis allongée sur le lit et me suis efforcée d'ignorer l'eau, mais même à l'étage avec les fenêtres fermées, on ne peut échapper au bruit. Je sentais l'eau qui poussait les murs de la maison, qui s'insinuait dans les fissures entre les briques, qui montait. Je la sentais dans ma bouche, boueuse et sale. Je la sentais sur ma peau. J'ai entendu un rire dans la maison, et on aurait dit le tien.